Bien, donc, un petit aperçu d'une. Un peu d'histoire littéraire, vu sous un angle un peu étroit, mais peut-être intéressant, vous allez voir. L'inné m'en est venu à la mort de Jean Rista, dernier prince des poètes, il y a environ un an, et de la polémique autour de la présidence du parrainage du printemps des poètes qui a eu lieu, comme vous le savez. Tout cela a remotivé une petite étude d'histoire littéraire sur laquelle je m'étais penché il y a quelques années. On connaît vaguement ce titre, prince des poètes. On retient parfois le nom de Paul Fort. D'autres noms circulent un peu au hasard, Ronsard, Verlaine, Mallarmé. D'où il apparaît peut-être utile d'aller savoir par qui est donné ce titre, comment et depuis quand. Mais d'abord, qu'est-ce que ce titre? Certains font remonter ce titre à Homère. Il s'agit alors d'une mythologie de bon aloi qui conférerait un supplément de noblesse au titre. Dans le Saint-Empire germanique, on trouve le titre de poète lauréat, qui disparaît en 1806, titre qui cependant demeure en Angleterre. En France, Clément Marot est nommé lui aussi poète lauréat. Il est ainsi au service du roi. Et c'est Clément Marot lui-même, par référence à Virgile, qui se dit « Vates Regus », le chantre du roi. Un universitaire, Florian Pressing, nous informe. Il n'est sans doute pas entièrement faux de dire qu'il s'est lui-même sacré, prince des poètes. Si son coup n'a pas entièrement réussi, Rabelais et Ronsard lui ont pendant des siècles volé la vedette, il reste qu'il a de son vivant atteint une royauté poétique sans précédent en France. D'autres commentateurs abondent dans ce sens, et il y a même un livre qui s'intitule « Clément Marot, prince des poètes français, 1496-1996 », classique Garnier 2023. Ronsard, quant à lui, serait le premier prince des poètes élu par ses amis de la Pléiade. Diderot consacre un article au « Poète couronné » dans l'encyclopédie.
Quoique Ronsard soit ordinairement représenté par une couronne de laurier, il y a cependant qu'en apparence qu'il l'ait reçu dans les formes, mais jamais poète ne fut peut-être plus honoré que lui. Charles IX ne dédaigna pas de composer à sa louange des vers qui font honneur au prince et à Ronsard. On les connaît. L'art de faire des vers, dut-on s'en indigner, doit être à plus haut prix que celui de régner. Tous deux également, nous portons des couronnes, mais roi, je les reçois, poète, tu les donnes. Les faveurs de nos rois et les récompenses qu'ils accordent aux poètes en les élevant aux dignités de l'Église et de l'État leur inspirent sans doute de l'indifférence pour une vaine couronne qu'on s'attendait d'ailleurs aux poètes que parce que l'on n'avait communément rien de mieux à leur donner. Il n'est donc pas surprenant que nous ayons eu parmi nous des poètes tels qu'Adrelini, Dora, Nicolas, Bourbon, etc., qui se soient glorifiés du titre de poète du roi, tandis que nous n'en connaissons aucun qui ait pris celui de poète lauréat.
Fin de citation. On ne trouve plus trace de la mention des princes et poètes au XVIIe et XVIIIe siècle. Il faut attendre le XIXe. Alors les choses se précisent. Mais là encore, on ne prête qu'aux riches. Lamartine aurait été élu en 1820. Le comte de Lille, peut-être. Et enfin, peut-être, Lautréam. On a quelques rudiments d'informations pour Verlaine. Georges Ducoy, dramaturge, poète et journaliste, est le premier à évoquer cette élection dans un ouvrage, Le Congrès des poètes, paru aux éditions de la Bibliothèque de la Plume en 1894. Il nous informe qu'il a posé cette question dans les colonnes du journal. Quel est, selon vous, celui qui, dans la gloire, ainsi que dans le respect des jeunes, va remplacer le comte de Lille? Répondent près de 200 poètes. Parmi lesquels, alors je ne vous les cite pas tous bien sûr, Jean Jalbert, Émile Blémont, Georges Courteline, Emmanuel des Essarts, René Guille, Ferdinand Hérold, Tristan Klintzor, Camille Mauclerc, Stuart Merrill, Jean Moréas, Jules Renard, Georges Rodenbach, Saint-Paul Roux et Francis Viollet-Griffin. Parmi les noms cités ressortent principalement ceux de Verlaine et de Mallarmé. Georges Ducoix reprend dans son livre le long article de Jean Ajalbert qui rend compte de cet appel dans le Gil Blas du 5 août et qui donne le titre à Ernest Dupuis. Que tout le monde connaît, bien sûr. Georges Ducoix reprend aussi des lettres, par exemple celle pleine d'ironie de René Dumic, intitulée « Les princes qu'élisent un grand lama ». Il faut attendre 1894 pour que les conditions d'une élection deviennent plus claires. La Lanterne affirme que le premier prince des poètes fut Verlaine. Et c'est en effet avec l'aide du journal La Plume que l'auteur de Romances sans parole est élu le 15 octobre 1894 par le Congrès des poètes. Avec l'aide sans doute de Maurice Barrès, Robert de Montesquieu, François Copé, Léon Daudet, Octave Mirbeau, Jean Richepin et Sully Prudhomme. À la mort de Verlaine, le processus de l'élection est relancé. Plusieurs poètes font acte de candidature auprès du journal La Plume, qui en publie la liste le 1er février. Je cite Jean Moréas, Sully Prudhomme, François Copé, José Maria de Heredia, Émile Verhaeren, Jean Richepin, Henri de Régnier, Francis Viollet-Griffin, Léon Gierte et Adolphe Rété. Parmi eux, un certain Stéphane Mallarmé, dont voici le texte de présentation.
Accrochez-vous, s'il vous plaît. D'un geste se conçoit, à l'heure où prestige matériel évanoui hélas, en lumière pure se résout le fantôme humain, autrefois levé sur le pavois de la haine, son front lauré des unanimes palmes. Peut-être écarter l'effroi de l'entrée en scène, le passé, le mien, poète riche du peu d'années vendangées, m'incite-t-il, parmi les cuivres sourds de mon crépuscule et les vierges clartés de votre aurore, à surgir pour enfin recevoir tel salaire d'honneur. Ici donc je veux, sans plus demander à qui est échu, parce que digne, le droit de l'attribuer un suffrage. Poète, cher mon vœu, que par vous vive un nom, le mien s'exprime tel.
Merci pour cette lecture difficile. Le dépouillement se fait sous la direction d'un comité comprenant Raymond de la Théiade, Ernest Reynaud, Maurice Duplessis et Charles Maurras. Stéphane Mallarmé est élu le 27 janvier 1896. Et il meurt le 8 septembre 1898. Il faut trouver un nouveau prince. La Lanterne donne le nom des candidats éventuels dès le 17 septembre. Qui héritera du titre flatteur prince des poètes? Qui chaussera les souliers du mort? Il en est sur les rangs 5 ou 6 des plus connus. Jean Moréas, chef de l'école romane, Gustave Kahn, Francis Viollet-Griffin, Henri de Régnier, voire un membre de l'Académie française, ma chère, José Maria de Heredia. Renommée inégale, sans doute, mais incontestable talent qu'un panache, il est vrai, ne saurait grandir. Quoi qu'il en soit, les paris sont ouverts. Le bruit court que la lutte sera circonscrite entre un poète consacré, José Maria de Heredia, et son gendre, Henri de Régnier. Un mois plus tard, le 12 octobre 1998, le même journal revient sur l'élection en cours. Le titre d'académicien risque de faire tort au premier. Mais le second, il n'est même pas de l'Académie Goncourt. Puisque les poètes veulent un prince, Henri de Régnier est digne de l'être. Les poètes sont nombreux à rechigner devant ce titre. Ainsi, Maurice Bouchor, en quelques mots spirituels, dit ce qu'il pense. « J'avoue, dit-il, que le principe monarchique m'inspire une insurmontable répulsion. Est-ce que la République des lettres ne pourrait pas être tout simplement une république? Je n'éprouve même aucun besoin de lui donner un président utile des guêtres immaculés. » José Maria de Heredia approuve cette opinion un peu plus nuancée néanmoins. Citation numéro 3.
José Maria de Heredia aussi approuve cette opinion un peu nuancée Je vous l'avoue que l'élection d'un prince des poètes me semble chose oiseuse. Tous les bons poètes ne sont-ils pas princes? Les seuls vrais princes de droit divin. Pourtant, je ne puis me priver du cordial plaisir de manifester mon admiration pour un ami. D'ailleurs, l'Académie française, devançant le jugement de la jeunesse, avait, dès 1896, par une distinction exceptionnelle, rendu justice à celui qui, de tous les poètes de notre génération, a écrit les vers les plus pénétrants, les plus nobles et les plus suaves. J'ai nommé Léon Diers.
Et en effet, Léon Diers est élu par la plume et par le temps qu'il annonce dans leur édition du 13 octobre 1998. Bien sûr, cette élection ne plaît pas à tout le monde. Ce n'est pas tant le nom des récipiendaires qui gêne que le principe même du titre. Louis Dumur dit « Il ne me paraît pas d'un grand intérêt de continuer cette dynastie. L'admiration en art ne se traduit pas par un bulletin de vote. Chaque poète de talent me semble prince dans son île. » Léon Diers meurt le 11 juin 1912. Il faut élire un nouveau prince. Très rapidement, le Gil Blas donne les détails intermédiaires des votes où l'on voit que la popularité change. Paul Fort a 19 voix, Henri de Régnier 13, la comtesse de Noailles 9, Raoul Ponchon 8, Jean Richepin et Mistral 5. Comédia expose durant tout l'été le processus de l'élection. Le Gil Blas prête sa salle des fêtes pour l'occasion. Sur l'estrade sont présents les René Blum, André Frénois, André Billy, Roger Desvignes, Jean Royère, Belval et Delahaye pour Comédia. Pierre Béat nous informe. Les votes avaient réuni plusieurs journaux, Comédia, Le Figaro et le Gil Blas. Les électeurs étaient de choix. Mistral, Bourges, Richepin, Materlinck, Méril, Teilhard, Saint-Paul-Roux, Viollet-Griffin. En somme, tous ses amis reconnaissants et qui pourtant étaient tous des aînés. Quelle merveilleuse consécration que celle-là. Et bien sûr, tous les jeunes. Alain Fournier, Divoire, Pellerin, Canudo, Apollinaire, Lamondot, Carco. À l'issue de 2 heures de dépouillement, Paul Fort est élu prince des poètes le 2 juillet 1912 par 388 voix contre 35 à Henri de Régnier. La plume se réjouit que son candidat soit élu, tout en déplorant la campagne électorale digne de procéder de candidat au conseil municipal. On se réunit à la closerie des Lilas, au lieu des récipiendaires. Le banquet d'intronisation au Luna Park, porte-maillot, le 12 juin 1912, est présidé par Jean Richepin, qui, dans son discours, prédit l'entrée de Paul Fort à l'Académie française. Max Jacob et André Gide sont présents. Guillaume Apollinaire, dans le Mercure, relate cette affaire et en fait l'historique. Paul Fort y revient dans ses mémoires.
Eh bien, c'est là, c'est à Réclose, que j'appris la mort du bon maître admiré, chéri de tous, notre prince Léon Diers. Et qu'un peu plus tard, je sus, par Marguerite Repentante, qu'il me fallait tout de suite retourner à Paris, que certains faits allaient s'y passer, quasiment en ma faveur. Je rentrai à la capitale des arts, Montparnasse, et c'est à la closerie des Lilas, derrière le sabre brandi du maréchal Ney, que l'on m'annonça par un doux crépuscule, étant au milieu de mes amis, mon élection au titre de PDP, entendez par là, prince des poètes. Jugement des humains, vous êtes impénétrables. Les votes avaient été réunis par Comédia, Gil Blas, un autre journal et la phalange du cher Royère. Le Figaro s'en était mêlé. Frédéric Mistral, disait-on, m'avait accordé son vote impérial en même temps qu'il écrivait sur mes ballades son premier article en français, ce qui m'attira les foudres jalouses du Midi. Bourges, Metternich, Méry, Taillade, Saint-Paul-Roux, Viollet-Griffin m'avaient donné leur voix. La voix de ce grand poète, Francis Viollet-Griffin, particulièrement me toucha. Enfin, très généreusement, votèrent pour moi Sébastien Charles Lecomte, président alors de la Société des poètes français, qui entraîna tous les membres de cette société dans le même mouvement, et une ribambelle de barde, de bombarde. Je les trouvais excellents, qu'on les connaissait à Paris en province sous le nom de loup.
Je termine la citation. J'avais interdit à la closerie le vote en ma faveur, mais bonne quantité de mes amis passèrent outre. Bien naturellement, le pot de fleurs qui me tombait sur la tête, plutôt qu'une couronne, m'écrasait. Et non, après tout, je me portais à ravir et j'étais content. Que voulait-on? Un prince jeune? On l'a. Et en effet, Paul Fort avait 40 ans et devait rester prince pendant presque 50 ans. Voilà pourquoi on a si bien retenu son nom associé à ce titre. Mais il meurt le 20 avril 1960 et il aurait désigné Jean Cocteau comme successeur. Les nouvelles littéraires, au début du mois de mai 1960, initient cependant une consultation et élisent Jules Supervielle. Mais celui-ci meurt très rapidement le 17 mai 1960. Une foire aux poètes se crée à Forges-les-Eaux avec la mémoire de Paul Fort et à l'élit Jean Cocteau qui publie dans son journal ce titre « Jean Cocteau de l'Académie française a été proclamé prince des poètes ». Jean Cocteau s'empresse de répondre un peu vivement qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une élection. Ce serait étrange que les poètes me rendent ce titre qui m'était dû, dont m'avait privé une manœuvre des nouvelles littéraires et que Supervielle rend à nouveau libre. Et Berthaud m'a téléphoné à midi que j'étais élu à l'unanimité. L'élection de Forges-les-Eaux est aussitôt consultée par le vieil ennemi André Breton. Dans un tract du 30 juin 1960, il s'adresse aux poètes.
Qui, après Paul Fort, au cas où aucun poète ne réunirait sur son nom la majorité absolue des suffrages exprimés, il y aura lieu de procéder à un second tour de scrutin, ceci afin d'éviter que la personnalité élue le soit à la faveur d'une trop grande dispersion des suffrages et par conséquent, grâce à un nombre de voix trop faible pour être tenu comme représentatif de la volonté des poètes. Les résultats du premier tour seront communiqués, sinon, sitôt leur dépouillement terminé, à chacun des participants. En cas de nécessité, ces résultats seront accompagnés d'un nouveau bulletin destiné au second tour. Le poète qui obtiendra alors le plus grand nombre de voix sera proclamé prince des poètes. Signé André Breton, Julien Gracq, Pierre-Jean Jouve, Robert Mallet, André-Pierre de Mandiard, Francis Ponge, Philippe Soupeau, Henri Thomas, Giuseppe Ungaretti.
Jean Paulhan, signataire du tract de Breton, soutient cette polémique. Puisque nous convenons de nous placer à la mort de Paul Fort, Supervielle donc vit encore. Et c'est pour lui que je vote, quitte dans un second vote à faire le choix d'un autre poète. Jean Cocteau rajoute dans son journal. Madame Paul Fort, écœurée des intrigues de la NRF, acceptait de recevoir les bulletins de ceux qui refusent le nouveau manifeste. La presse m'apprend que la bande recule, les actes limites du référendum. On dirait que les choses ne tournent pas comme ils l'avaient prévu et qu'ils en éprouvent de la gêne. Saint-Jean de Perse est élu par ce groupe dissident. Mais celui-ci envoie une lettre de refus à Aragon pour les lettres françaises et une autre à Pierre Béard, secrétaire du comité d'organisation d'un référendum pour l'élection.
Presqu'île de Gien, 9 octobre 1960. Informé tardivement par la presse des résultats d'une élection qui tendrait à faire de moi un prince des poètes, je crois devoir faire savoir aux répondants de cette élection que je n'accepterai en aucun cas un titre auquel je n'ai point de vocation.
Les amis de André Breton reprennent alors la main. Sans revenir sur le terme de notre déclaration du 30 juin, nous sommes obligés de constater que le poète qui, à l'élection par nous organisée, avait recueilli le plus grand nombre de voix, Saint-Jean de Perse, a déclaré ne pas accepter le titre de prince des poètes et que Jean Follin a déclaré pareillement qu'il refuserait le titre s'il était élu. Nous ajoutons, pour répondre aux interprétations malignes de certaines presses, que dans notre pensée, le fait de signer la déclaration impliquait une renonciation au titre mis aux voix et qu'ainsi nul des signataires, André Breton en particulier, ne pouvait être élu. Nous nous refusons à tenir pour valables les bulletins à sens unique renvoyés à Madame Paul Fort, comme aussi le droit personnel d'investiture qui se juge fondé à exercer tel ou tel. Par ailleurs, un fait nouveau, l'attribution du prix Nobel à Saint-Jean-Perse, nous sommes de nature à fausser complètement la seconde élection qui devait avoir lieu avant le 1er décembre.
André Breton.
Toujours.
Pour ces raisons, tout en regrettant que Saint-Jean-Perse ait pu devoir se soustraire à un titre que nous persistons à juger honorable et charmant malgré son écho légèrement suranné, nous avons décidé de renoncer à la seconde élection que nous avions en projet. Reste acquis les résultats du premier tour, soit, après nouveau pointage, 97 voix à Saint-Jean-Perse, 87 à Cocteau, 63 à André Breton, 60 à Jean Follin, 53 à Philippe Chabanex, 16 à Marie-Noël et 12 à Aragon. Nous laissons à chacun le soin de conclure si Saint-Jean-Perse doit être considéré malgré tout comme prince des poètes ou si ce titre, dont tout plébiscite contredit essentiellement le caractère électif, ne peut plus aujourd'hui donner lieu à une attribution. Si même l'on dénie à la poésie le caractère absolu qui est le sien, il reste que nous avons là le type même du titre sacré, l'un de ces titres qu'il faut accorder à qui les repousse, refuser à qui les postule. D'une certaine manière, André Breton accorde l'élection à Jean Cocteau, arrivé deuxième.
Mais, piqué par les irames, celui-ci répond. Ce titre d'un prince de poète était celui de Verlaine et de Mallarmé à l'origine. Peut-être fier qu'il le porte. Le prince n'est pas élu sur l'estrade où se décernent les récompenses, mais sur cette estrade, dans une ombre que la mode et l'actualité dédaignent. C'est le moins officiel des hommages, bien qu'il relève d'une cérémonie, d'un usage, d'une règle et d'un code. Une gratitude profonde pour l'unanimité du Congrès des Forges. Il poursuit quelques jours plus tard dans son journal. Bien sûr que j'ignore les innombrables mauvaises humeurs que la nouvelle a dû provoquer, mais j'ai aussi d'innombrables marques de gentillesse. Entre autres, une lettre de Severini, la fille de Paul Fort, qui s'était indignée de la manœuvre des nouvelles littéraires, sachant que Paul Fort m'avait désigné comme son successeur. Alors, Aragon siffle la fin de la partie par un article dans les lettres françaises titré « Le sacre de l'automne ». Je ne vote pas Cocteau, je le sacre d'autorité, prince des poètes, à grenouille. La polémique blesse douloureusement Jean Cocteau, auquel la revue Points et Contrepoints rend ostensiblement hommage l'année suivante. En 1962, ouvrant un gala donné au théâtre Héberto le 15 mai, en l'honneur de son prédécesseur, Jean Cocteau y revient. Le titre, un peu carnavalesque, le prince des poètes, ne récompense pas une œuvre, mais une certaine façon de vivre, une bonté dure, une rigueur inflexible, et cette boiterie qui nous reste, comme à Jacob après la lutte avec l'ange. C'est cette façon de vivre que je salue chez Paul Fort. Voilà ce qui m'a fait accepter cet héritage. Paul Fort souhaitait me léguer son titre et c'est en face de ce désir qu'il me confia que je m'incline. Personne ne songe à remplacer Jean Cocteau. Il semble que le titre, avec les adjectifs qu'on lui colle de « prince des grenouilles », légèrement suranné, tombe en désuétude. Peut-être aussi que la récente polémique entre Jean Cocteau et André Breton empêche quiconque de s'y aventurer. Cependant, l'association L'Amitié par le Livre de Camille Béliard décide de redonner de l'aura à ce titre en changeant partiellement l'intitulé. De prince des poètes, il devient prince en poésie. Un vote est organisé par L'Amitié par le Livre qui élit une anthologie en proposant à ses lecteurs d'élire le prince des poètes parmi 19 poètes d'entre ceux de ce recueil. Le jury est présidé par Jean Guirec, président honoraire de la Société des gens de lettres.
Qui était fidèle de la brasserie.
Merci de cette précision.
Enfin, du cercle.
Du cercle, à Liénor. Bien sûr, il y a toujours des mécontents. Un certain Charles Bory déplore que les électeurs soient les lecteurs de cette anthologie, une masse de rimailleurs de tous bords, possédant assez de pécules pour acheter autant d'anthologies qu'il le faudra, et par là même autant de bulletins de vote pour soutenir le candidat de leur choix. Qui pourra empêcher tel plus modeste prétendant de s'acheter des voix par ce simple procédé? Tout est faussé. Le prince, puisque prince il doit y avoir, ne devrait tenir son titre que de la seule amitié des vrais poètes, tous ceux que compte la Société des poètes français. Une voix par membre, que de grands noms manquent à ces 19 élus de l'anthologie. Je pense tout spécialement à deux poètes qui ont marqué notre siècle d'une authentique présence, Philippe Chabanex et Jean Lobo. Mon vote amical et sincère se portera en pensée, hélas, bien inutilement, sur Maurice Carême. Mais aussi, pourquoi tant de titres ronflants, stériles, le plus souvent ridicules, allant de la baronne du Cercle d'Or au prince international du Sonnet, en passant par le chevalier, le druide ou de la première muse? Le vote est définitivement acquis par le jury lors d'un dîner au restaurant Le Procope, présidé par Maurice Genevoix. Le nouveau règlement prévoit une élection tous les 5 ans. C'est Maurice Carême qui obtient le titre en 1972, et au bout des 5 ans réglementaires, Léopold Sédar Senghor est élu à son tour en 1978. À sa mort, le 20 décembre 2001, l'amitié par le livre choisit Charles Trenet. Celui-ci refuse, considérant que le Procope n'était pas si bien pour lui. Il aurait préféré Maxims. Ne pouvant assumer de tels frais, l'amitié par le livre décide de supprimer l'élection. On serait à la fin de l'histoire si, comme tout chercheur, quelquefois je trouve, et quelquefois je trouve ce que je ne cherche pas. Et ainsi, au hasard de l'Internet et des amitiés, j'apprends que Jean Rista, mort en 2023, est élu prince des poètes le 7 juillet 2013 à Fort-Calquier, au couvent des Cordeliers, lors d'un colloque organisé autour de son œuvre. J'ai reçu un courriel de Francis Combe qui m'a précisé les détails de cette élection.
En effet, l'atmosphère était à la galéjade, mais il y a toujours un fond de sérieux dans une plaisanterie. Cela s'est passé lors du repas à l'issue des travaux du colloque consacré à Jean Rista. Si je me souviens bien, j'ai porté un toast en proposant l'élection de Jean à ce titre. L'Assemblée m'a suivi. Malgré la réticence d'un ami, Serge Fossereau, qui devait penser que ce n'était pas une galéjade et qui doit avoir des objections de fond de caractère républicain contre cette marque d'aristocratie politique.
Poétique.
Ce que je comprends, bien sûr. Mais il me plaisait d'affirmer que Jean est bien l'un des meilleurs poètes d'aujourd'hui, l'un des plus singuliers aussi, qui se tient en dehors des modes actuels. Après avoir été l'initiateur de la revue Digraph, et très lié à certaines avant-gardes des années 70, il est aujourd'hui l'un des poètes qui manifeste le plus fortement par son œuvre, qui a des aspects néo-romantiques ou néo-classiques, comme on voudra, la permanence de la poésie dramatique et d'un lyrisme flamboyant, et de manière assez solitaire dans le genre qui est le sien.
La mort de Jean Rista ne semble pas redonner de l'intérêt pour ce titre. Il est vrai que Jean Rista lui-même, ni le groupe qui l'a soutenu, n'ont fait de publicité pour ce titre, sans doute à cause de sa mauvaise presse. Il n'empêche, cette élection a eu lieu, les organisateurs la revendiquent et le récipiendaire ne l'a pas refusée. Et maintenant, faudra-t-il encore attendre 20 ans pour élire un nouveau prince? Quant à moi, je pencherai pour une princesse.
j'ai précisé que Jean Guirec était un fidèle du cercle Aliénor il y a quelques années. Mais Maurice Carême a fait partie de l'équipe de base aussi au moment de la création du cercle.
Il est intéressant dans cette petite histoire de voir que vraiment la postérité change. Hein, j'ai un peu insisté à un moment donné sur Philippe Chabanex et Jean Lobo. Qui se souvient encore d'eux?
Chabanex
un peu. Mais Lobo.
Si, par contre, on entend Alain Fournier à un moment donné.
Exact. Oui, alors,
voilà.
Vous me pardonnerez d'avoir cité ce nom.
J'ai une petite remarque.
Oui.
Je vois que le titre de Miss France a plus de succès que le titre de Brun.
En effet. Bien qu'il soit féminin.
Il y a aussi des prix qui lisent leur poète officiel. Aux États-Unis,
oui. Il y a un poète officiel. Oui. J'en ai parlé un tout petit peu dans mon introduction. Il y a des poètes lauréats en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. Oui.
Ben oui, voilà, c'est un peu court. Ben oui, je pense que ça va être un peu plus long.
Prince des grenouilles. Qui veut être le prince des grenouilles?
Moi,
ça grenouille du fort. Merci hein, pour ce texte de Mallarmé, tu l'as très bien lu. Hein. C'était difficile.
J'ai quelques livres.
Oui.